19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver en ce début de semaine. C'est parti, vous le savez, comme tous les jours pour une toute nouvelle semaine. Et dans cette nouvelle semaine, eh bien, on commence avec une actualité qui secoue les réseaux sociaux. Au sommaire des informés, vous le savez, les informés, commenter, analyser, décrypter l'actualité. Alors, tout d'abord, une série d'invités pour revenir sur le chaos au Stade de France. À qui la faute? Chacun se renvoie la balle. Mais qui est responsable de ce qui s'est déroulé? Alors, certains nous parlent de racailles, des jeunes des quartiers populaires, d'autres nous parlent des supporters anglais. Bref, on va décrypter cette actualité, on va prendre le temps nécessaire, évidemment, pour poser les mots et voir véritablement que s'est-il passé. Ensuite, autre, évidemment, l'incident au Stade de France, je parle bien sûr. Autre sujet qui a retenu notre attention, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon et sa déclaration. 3,5 de la population, pourcent bien sûr de la population, posséderait 50% des logements locatifs. Bon, moi je veux bien Jean-Luc Mélenchon, mais il faudra nous expliquer comment il l'affirme de façon ferme, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il ne prépare pas les élections législatives? Clochette. Ah oui, le matin de Sénat est une clochette. Ah oh, oui. 19h30, c'est le billet d'humeur, le quoi de neuf avec Maître Philippe-Henri Honegger, qui viendra nous livrer son regard juridique sur un sujet d'actualité. Et puis, vous le savez, comme tous les jours, les débatteurs influenceurs sont là pour livrer leur point de vue, mais surtout confronter leur point de vue. Rayed Chaibi, qui est sur le plateau avec nous, le président de l'association franco-tunisienne. Face à lui, eh bien, Jimmy Dalidou, qui nous vient d'Aulnay-sous-Bois, lui, représentant de la CGT, mais également auteur. Deux regards différents, mais deux regards qui vont confronter leur point de vue sur deux sujets d'actualité. Allez, c'est parti, vous le savez, et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
L'interview pour démarrer cette toute nouvelle semaine dans Les Informés, c'est parti.
Les Informés, l'interview.
Et l'interview, c'est avec le maire. Le maire est candidat également aux élections législatives. Monsieur Carl Olive, bonsoir Carl Olive, bonsoir Monsieur le maire.
Bonsoir Adil, bonsoir BFM.
Face à vous, vous avez également un autre invité, celui qu'on ne présente même plus sur notre antenne, Nasser Sanjak, spécialiste du football. Comment ça va mon cher Nasser Sanjak?
Ça va très bien, Adil. Bonjour, un grand bonjour à Carl Olive.
Bonsoir Nasser Ketan est également avec nous. Messieurs, d'abord cette première question, merci de confronter votre point de vue. Le chaos qu'on a vécu ce week-end, est-ce que c'est digne du cette France qui est une grande puissance mondiale? Chacun se renvoie la faute. L'organisation de la finale de la Ligue des Champions qui s'est tenue, je le rappelle, samedi dernier à Saint-Denis. Quelle image garderons-nous tout d'abord de ce fiasco, de cette polémique? Je vais commencer, tiens, par le spécialiste, d'ailleurs les deux sont spécialistes du foot, Carl Olive, le maire de Poissy, on vous écoute.
D'abord j'étais au Stade de France samedi avec deux de mes garçons, on y est arrivé tôt à 18h15 et c'était formidable, on n'a eu aucune difficulté de notre côté, c'est vrai qu'on est parti tôt, hein. On est parti à 5h15 de Poissy, on a pu discuter d'ailleurs avec les supporters anglais, les supporters madrilènes, et j'ai une grosse tristesse et une immense frustration. D'abord, la tristesse, c'est que la victoire du Real est vraisemblablement le sacre de Karim Benzema pour en tant que ballon d'or à la rentrée prochaine, passe au second plan aujourd'hui, alors que c'est un exploit tout simplement fantastique. Il va être le cinquième joueur à obtenir le ballon d'or dans l'histoire des footballeurs français. La seconde, c'est, et vous l'avez dit à juste titre, à un moment donné, on peut pas se jeter la pierre les uns avec les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? On a 70 000 supporters anglais qui viennent en France et 20 000 ont un accès légal au stade avec un billet digne de ce nom. On en a 50 000 qui savent qu'ils ne pourront pas rentrer au stade. Et là, l'enquête montrera s'il y a eu ou pas falsification. Vraisemblablement, il y a eu de la falsification. La deuxième chose, c'est que malheureusement, mais ça c'est notre beau pays, vous l'avez rappelé Adil, on ne trouve pas mieux que de se mettre en grève avec un mouvement social sur le RER B, qui a compliqué les flux j'en sais quelque chose parce que je suis resté longtemps à voir ce qui se passait lorsque j'ai appris ce qui, malheureusement, les incidents. Et puis derrière, ben, quand vous avez des gens qui se retrouvent autour du stade par dizaines de milliers, ben, on peut pas ne pas imaginer.
Monsieur Carl Olive, est-ce que ça justifie, évidemment, coup d'envoi retardé, supporters coincés dans les files d'attente, affrontement? Est-ce que les forces de l'ordre étaient au point? Franchement, on peut se poser la question. Oui.
Alors, moi,
ces scènes, quand même, c'est des scènes de chaos, France, quand même, que la France, que le monde entier a vécu. C'est pas digne d'une France.
Je pense qu'il faut pas généraliser. Hein. Il y a trois semaines, il y a eu un match entre Nantes et Nice. Le Stade de France était complet de chez complet. Il n'y a eu aucune difficulté. Hier dimanche à Marseille, 60 000 personnes pour le Stade Rochelet en Coupe d'Europe de rugby. 600 000 personnes pendant la durée de Roland-Garros. Il n'y a pas de difficulté. On s'est organisé. Mais parfois, vous avez des trous dans la raquette et vous n'êtes pas à l'abri non plus que des voyous de quartier, une minorité évidemment, profitent de la situation pour aller régler aussi ces choses.
Vous dites, Carl Olive.
Adil, moi, je voudrais rappeler quelque chose.
Nasser Kétan.
Moi, je tire un coup de chapeau à la police et à l'organisation. Je vais à contre-courant. Pourquoi ? Parce que des billets ont été édités à la demande des organisateurs britanniques,
oui.
Imprimés et scannés.
Oui, exact.
Ceux qui ont eu ces billets-là sont passés, ils étaient imprimés, il y avait le scanner, et les falsificateurs sont entrés dans la brèche. Ils ont fait des billets que imprimés. Et quand ceux qui, de bonne foi, ont acheté des billets imprimés sont arrivés au scanner, ils n'avaient pas le scan, ils ont été renvoyés. Et le coup de génie de la police et des organisateurs a été de lever les entonnoirs, de libérer ces silences. Ça aurait été des émeutes, ça aurait été des gens écrasés, et ils ont libéré les choses. Et au total, pas un blessé et pas un mort. Et ça, coup de chapeau. Je veux dire qu'il faut aussi être content, parce que moi, je suis allé dans des matchs de foot au Maghreb, c'est un coup de bâton, c'est des militaires, etc. C'est comme ça que ça se passe dans des clubs. Et franchement, on a eu une belle finale, et qu'il y a une demi-heure de retard. Et dans les conditions qui se passaient, je pense un coup de chapeau. Franchement,
ouais, mais bon. Voilà.
Moi, j'ai pas l'habitude de comme ça d'être comme ça, mais je pense qu'il faut quelque part rendre à César ce qui appartient à César. Je sais pas, Caroline, ce que vous en pensez.
Ben, justement, faut quand même dire les choses. C'est que aujourd'hui, les forces de police, il y avait 7000 forces de police, c'est-à-dire quasiment un policier pour 10 spectateurs. C'est du jamais vu. C'est largement largement suffisant. Et merci de rappeler que la première des préoccupations de la police, c'est de protéger. De protéger les Français, toutes celles et ceux qui étaient au stade samedi. Et encore une fois, le travail qui a été fait, merci de le rappeler, cher Nasser, c'est que ces personnes-là ont pris la décision de pouvoir ouvrir, entre guillemets, les vannes, parce qu'il y avait des boulons d'étranglement aurait pu occasionner vraiment des
là, je voudrais tout à fait normalement. Bon, bah, il y a quelques dizaines de jeunes des cités qui étaient là, et puis c'est dans tous les matchs pareil. Ils essayent de rentrer parce qu'ils n'ont pas un rond, ils n'ont pas un euro. Le billet coûtait entre 200 et 700 euros. Et ben, ils se sont dit, c'est l'occasion, et quelques dizaines ont essayé de rentrer. Mais je veux dire, invoquer ça. Pour taper sur.
Mais justement, attendez, messieurs, je vous ferai commenter justement un court extrait justement sur CNews avec Pascal Praud. Je voudrais qu'on entende Nasser Sanjak tout d'abord. Nasser Sanjak, le spécialiste du football. Quel est votre regard? Comment avez-vous vécu cet incident au Stade de France, cette polémique, ce chaos, mon cher Nasser?
Ben déjà, on va pouvoir dire que c'est vraiment un grand, grand, grand problème qui s'est mis en face de la France. C'est tout simplement, est-ce que la France est capable d'organiser des Jeux Olympiques? Parce que derrière tout ce discours, tout ce tintamarre qu'on entend, c'est l'organisation des Jeux Olympiques. Moi, ce que j'ai envie de demander à vous qui êtes sur le plateau, c'est qui le responsable? C'est quoi la notion de responsabilité? C'est qui les organisateurs et qui est derrière tout ça? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se jette la balle, comme d'habitude, quand il y a des problèmes comme ça qui arrivent.
Mais alors, tout le monde se jette
Ce qui m'embête le plus, c'est qu'on y met les membres de banlieue encore une fois à l'intérieur de ce jeu-là.
Eh ben tiens, écoutez, Nasser Sanjak, vous me permettez justement là une belle transition. Écoutez cet extrait sonore de l'émission chez Pascal Praud. Un échange, et notamment Pascal Praud. Écoutez, soyez très attentifs, écoutez.
Antidélinquance qui était mis en place, je pense qu'il aurait fallu les renforcer effectivement, parce que à mon avis, on s'attendait pas à ce qu'il y ait 300 à 400
Mais parce que personne n'a dit, mais vous savez pourquoi? Parce que personne n'a dit dans une réunion, attention, il y a Karim Benzema sur le terrain.
Oui, bien sûr,
c'est ça le problème. Personne n'a pensé à ça.
Vous avez raison, je pense.
C'est aussi simple que ça.
Non.
Parce que s'il n'y a pas Karim Benzema, ils ne sont pas là.
Ça veut dire quoi, ça, messieurs, s'il n'y a pas Karim Benzema, ils ne sont pas là? Qu'est-ce que ça sous-entend, franchement, ces phrases toutes faites? Vous savez que ça provoque déjà une polémique, là, une grosse polémique. Nasser Sanjak et ensuite Carl Olive. Et ensuite, Nasser Kétan.
Ça reflète exactement l'état d'esprit que l'on peut voir aujourd'hui en France sur le plan politique. On est en train de voir des choses qui dépassent l'entendement. Le problème de Karim Benzema, c'est quand même l'attaquant de l'équipe de France. C'est quand même lui qui a ramené les 5 Coupes d'Europe pour la France. Maintenant, j'ai envie d'aller encore un peu plus loin. Pourquoi tous les événements qu'il y a eu au Stade de France, ils sont nombreux depuis 1998. On n'a jamais parlé des banlieues. Et quand il y a un problème, suite à des problèmes, on va dire, d'informatisation des billets, tout de suite, on va piquer les jeunes de la banlieue de Saint-Denis en disant...
C'est pas normal.
Dans ce cas-là, j'ai envie de dire, c'est qui les responsables réels de cette organisation, parce qu'on parle de l'UEFA, bien sûr, on parle de la police, on parle des gens, on coupe un peu la poire en deux, on dilue la responsabilité pour tout le monde, mais la réalité, c'est qui l'organisateur, c'est qui les vrais responsables, qu'on puisse parler avec eux.
Nasser Sanjak, j'aimerais entendre Karl Olive, le maire de Poissy et le candidat aux législatives dans le cadre de la 12e circonscription des Yvelines. Karl Olive, qu'est-ce que cela vous inspire franchement quand on entend Pascal Praud dire très tranquillement, très sereinement, s'il n'y a pas Karim Benzema sur le terrain, eh bien ils ne sont pas là. Ça veut dire quoi ça franchement?
D'abord avec Nasser Sanjak et tout le travail qui est fait avec la famille Sanjak, et pas seulement à Noisy-le-Sec et aujourd'hui Jamel à la tête de la Ligue de football parisienne. Et ce que moi, humblement, modestement, je peux faire pour le football depuis 30 ans ici à Poissy sur le territoire, je pense qu'il y a une cible qui est totalement ratée de la part de Pascal Praud. Je suis assez étonné de ses propos très bruts qui
vous
ne
avez entendu
pas sur le fond. Bien sûr.
Oui.
Et je pense qu'au lieu de stigmatiser, surtout un joueur comme Karim Benzema, qui encore une fois remporte la cinquième finale de
sa
carrière.
Mais c'est scandaleux, qu'est-ce qui lui arrive, Pascal Praud? Franchement, là, je ne sais pas. Mais non, c'est pas normal.
Exceptionnel, c'est pas normal. Après, sur les responsabilités, il faut dire à Nasser que, un, c'est une organisation de l'UEFA, c'est une finale organisée par l'UEFA. L'UEFA va s'adosser à la Fédération Française de Football pour gérer l'environnement, les stadiers. Ensuite, on a la police, la police du stade, j'ai envie de dire, donc les forces de sécurité qui vont gérer tout cela. Et malheureusement, l'addition d'un certain nombre de dysfonctionnements, et ne mésestimons pas, s'il vous plaît, chers amis, le fait que 70 000 Anglais empruntent les transports en commun, et malheureusement, samedi, il y a un mouvement social qui fait que les transports en commun sont très compliqués à utiliser, ce qui va augmenter le délai d'arrivée au stade. Donc de l'empressement de la part de celles et ceux qui avaient des tickets, qui plus est 20 000 ou 30 000 peut-être, qui avaient des faux tickets ou des tickets falsifiés.
Nasser Kétan, qu'est-ce que cela vous inspire, les propos de Pascal Praud, évidemment, lorsqu'il fait cette comparaison et ce raccourci?
Non mais je crois que c'est terrible. C'est terrible. Karim Benzema, comme Zinedine Zidane, incarne la France, incarne la cohésion sociale. N'importe quel jeune des cités se sent heureux. Ils se sont heureux de voir Karim Benzema marqué. Ils se sont heureux d'être français. Et là, on sent cette communion autour de gens comme Karim ou Zinedine Zidane. Et je veux dire, venir comme ça, cracher un peu sur ces images, je veux dire, on n'attend pas ça. En plus, Pascal Praud est un ancien journaliste sportif.
Oui. Pour la petite confidence, on a travaillé ensemble à TF1. C'est pour ça que je suis surpris.
Donc voilà. Donc je crois
qu'à Téléfoot, figurez-vous.
Le match a eu lieu. Il s'est passé dans le calme. Ça a été un très beau match. Le Real a gagné haut la main. Karim a été magistral. Il va avoir le ballon d'or. C'est la fête. Revenons à la fête. Les goulots d'étranglement ont été évités par la police. Il n'y a pas eu de piétinement. Il n'y a pas eu de blessés. Comme on dit chez nous, alhamdoulilah. Donc ça s'est bien passé. Tant mieux. C'est surtout ça qu'il faut reconnaître. Et moi, je suis content que ce match ait eu lieu et que ce soit passé dans ces conditions.
Absolument.
Après le reste, on définira des responsabilités.
Mais
on fera mieux la prochaine fois.
Et on continuera d'en parler. Karl Olive, je dois libérer parce qu'il y a la pub qui doit se lancer dans une poignée de secondes. Quel dernier mot? Vous savez qu'on a un point en commun, Karl Olive, vous et moi. On est des anciens journalistes sportifs. Hein. Ça reste, hein. C'est l'ADN.
Je peux vous dire que lorsque vous dirigez une commune de 40 000 habitants, on vient du sport, on est habitué aux règles du jeu, donc on est dans le jeu ou en dehors du jeu. Et j'aimerais que de temps en temps puisse valoriser toutes les actions qui soient faites sur le terrain et le fait de pouvoir partager ces informations et encore chapeau à Beurre FM. Et mes amitiés à Nasser, à Saint-Jacques et à toute la famille parce que c'est une famille exemplaire très identifiée dans le milieu du ballon rond et pas seulement sur la place de Paris.
Saint-Jacques est une légende.
Je confirme. Merci mon cher Karl Olive, le maire donc de Poissy, mais candidat aussi dans la 12e circonscription des Yvelines. Nasser Sanjak, le mot vous revient, le mot de la fin vous revient. On vous écoute mon cher Nasser Sanjak.
C'est un grand plaisir, Aziz. Simplement, je prends réellement conscience des propos qui ont été tenus. C'est encore une honte, mais quand je dis c'est une honte, on est en train encore de stigmatiser un Algérien dans l'équipe de France et remontrer encore et redire aux gens, regardez ce qu'il fait. Mais on en a marre de dire tout ça, Aziz. C'est bon, on avance, on pense à autre chose, on est sur autre chose, on est sur d'autres projets. Qu'on nous remette encore le doigt sur les problèmes de violence, d'islam, tout ce qui va avec, c'est bon. Pour moi, je dis c'est bon, les gars. On va passer à autre chose, parce que c'est pas clair, votre discours, là. Ils sont pas clairs et ils sont même peut-être plus clairs que ce qu'on a envie d'entendre. C'est quand même honteux qu'on en arrive en 2022 à encore en train de parler de Karim Benzema, est-ce qu'il a marqué, c'est quoi, mais dans quel délire on est là.
On est dans quel délire, c'est ça.
Ah oui.
Grand merci, mon cher Nasser Sanjak. Grand merci à vous d'être intervenu dans Les Informés. Et au plaisir de vous retrouver, bien sûr. Nasser Kétan, merci.
Un grand bonjour à Carlos.
À bientôt. Et
à demain, surtout. Rendez-vous 18h45 pour le quart d'heure.
Pour le quart d'heure législatif. Et j'espère que vous rendrez hommage à ce journaliste.
Bah, c'est ce que j'allais faire tout de suite.
Qui est décédé en Ukraine, comme à la journaliste palestinienne.
Ça, on l'a fait. On lui a consacré, évidemment.
Ces journalistes, je veux dire, en Algérie aussi, qui ont été mis en prison, comme ces journalistes en Chine. Le journaliste paye le prix le plus fort, parce qu'il ramène des images, comme ce photographe en Iran, aussi, qui est en prison parce qu'il prenait des photos. Je veux dire que le journaliste, quel que soit l'endroit de la planète, paye le prix fort.
Exactement.
Il nous ramène des informations, il nous ramène des images, et on doit vraiment, vraiment s'incliner devant la mémoire de tous ces journalistes, quel que soit le pays, qui font un travail sans lequel, je veux dire, le fait d'être humain, citoyen, ne pourrait pas exister.
Absolument. Donc, vous l'avez exprimé et on l'exprime dans Les Informés sur l'antenne de Beurre FM. On exprime évidemment notre solidarité à ce journaliste de BFM TV qui est mort, évidemment, d'un éclat d'obus. C'est toujours, comme l'a expliqué Nasser Kétan, c'est toujours dramatique, évidemment, et on connaît les conditions, et évidemment, et on voudrait lui rendre un hommage particulier. 19h16, on lance la première page pub. 0153483000, on vous attend. Le Stade de France, la polémique, à qui la faute, le chaos, bref, venez exprimer, évidemment, comment vous l'avez vécu. Et on se retrouve avec Raïd Chaibi, Jimmy Dalido, à tout de suite.
Les Informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les Informés avec Adil Farkan.
Et Les Informés, 19h24, 0153 48 3000, les propos de Pascal Pro sur CNews, mais également le face-à-face, c'est parti.
Les Informés, le face-à-face. Le
face-à-face. Bonsoir mon cher Jimmy Dalidou, comment ça va?
Bonsoir Adil, bonsoir à tous.
Le représentant de la CGT, mais également aussi auteur, face à lui, le redoutable également. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi vous rigolez? Rien JB, voyons. Ça y est, il est pris d'un fou rire, c'est parti. Président de l'association franco-tunisienne, comment ça va mon cher Ayed?
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir.
Président, ça va?
Ça va et vous?
Très bien, vous êtes en forme, hein? Ouais, moi aussi, vous m'avez manqué là. Ça fait longtemps, vous avez disparu. Qu'est-ce qui s'est passé?
On est là.
Hein. Vous voyagez, hein?
Oh, pas si souvent que ça.
Allez messieurs, tout de suite, je voudrais vous faire réagir d'abord ces premiers propos de Pascal Pro, tout de suite. Yanis, le réalisateur, va nous lancer évidemment ses propos tenus sur CNews. C'est Pascal Pro, le présentateur.
Les délinquances qui étaient mises en place, je pense qu'il aurait fallu les renforcer effectivement, parce que, à mon avis, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait 300 à 400
Mais parce que personne n'a dit, mais vous savez pourquoi? Parce que personne n'a dit dans une réunion, attention, il y a Karim Benzema sur le terrain.
Oui, bien sûr,
c'est ça le problème. Personne n'a pensé à ça.
Vous avez raison, je pense.
C'est aussi simple que ça.
Non.
Parce que s'il n'y a pas Karim Benzema, ils ne sont pas là.
T'as craqué, Pascal Pro, ou quoi? Bon, voilà, j'avais envie de le dire. Non, mais sérieux, Pascal Pro, qu'est-ce qui est arrivé très honnêtement? Qu'est-ce que je vous laisse commenter? Parce que sinon, moi, la vérité, je vais le déchirer.
Vas-y, commence, Ryan.
Clochette! Non mais en plus on se connaît, je sais pas ce qui lui arrive parfois, est-ce qu'il veut provoquer le buzz ou pas buzz. 0153483000 mes amis auditeurs, je voudrais vous entendre réagir. Red JB, franchement.
Je sais même pas par où commencer.
Ouais, je crois que c'est ça.
Je m'attendais pas à un niveau aussi bas, surtout venant de la part de quelqu'un qui a quand même été un journaliste quand même
sportif, assez connu.
Important, connu, et puis TF1. Surtout avec un certain niveau à TF1. En arrivé là, je suis plus que dubitatif.
Ouais, mais comment qualifier ses propos, franchement?
Ils sont inqualifiables. Ils sont inqualifiables.
Jimmy
Dalidou. En fait,
ils cherchent quoi, là?
Ce sont des propos, évidemment, à vomir. À vomir totalement. Il ne fait pas, en plus, il ne fait absolument pas son boulot de journaliste. Son boulot, c'est d'apporter des informations, pas de porter des jugements totalement farfelus et erronés concernant un joueur, en tout cas la personnalité d'un joueur. Et de plus, mais c'est pas nouveau hein, chez lui. Hein. Ce gars-là, il cherche le buzz, il cherche à faire des vues. Il a fait grimper l'autre, son copain, pareil, Monsieur Zemmour. Hein, ce sont des personnages qui sont à vomir. On sait que moi, c'est très subjectif ce que je veux dire. Hein, ça n'engage que moi de dire ça, mais je pense que cette chaîne est dans la dérive. En fait, elle dérive à l'extrême droite. Elle devient, elle prend clairement. N'ayons pas peur des mots. CNews est devenue fasciste en fait. C'est devenu une chaîne fascisante. Il n'y a pas un moment dans cette chaîne que ce soit Pascal Praud et tous ses petits copains de CNews, ils vous parlent des Noirs, des Arabes et ceux qui soi-disant les problèmes de la France. Ça commence à me gaver en fait.
Messieurs, nous revenons sur cet événement, ce chaos, ces scènes de chaos, justement, au Stade de France, samedi dernier. C'était la finale de la Ligue des Champions. Je voudrais vous entendre. À qui la faute? Chacun se renvoie la balle. On parle des supporters anglais, on parle des jeunes des quartiers populaires. Franchement, bon, Jimmy Dalit.
Ouais, alors tout à l'heure, oui, on a commencé à en parler. Alors, je suis pas d'accord avec ce qui a été dit concernant les. Je pense pas que ce soit la faute des luttes sociales ou des jeunes des quartiers populaires. Je pense qu'il y a trois problèmes à trois niveaux. Ah. Le premier problème, il est d'ordre économique. On l'a dit tout là pour le coup, j'étais d'accord. C'est pas normal qu'on ait un billet coûte plusieurs centaines d'euros pour accéder à un match de foot. Ça, c'est pas normal. Le français moyen qui travaille et qui touche 1400 euros de salaire, comment il fait pour aller voir un match de foot?
Exactement.
Quand tu touches 1300 euros et que tu t'achètes un billet pour aller voir un match de foot actuellement, c'est un investissement. Le français, il investit dans un billet. Donc, ensuite, ça pose le problème. Donc, la première chose, c'est qu'il faudrait intégrer, moi je pense qu'il faudrait un pass culturel qui permettrait aux jeunes des quartiers populaires, aux Français moyens qui travaillent, d'accéder à un match de foot, un pass culturel qui serait financé par exemple par le retour de l'ISF. On revient à l'ISF, l'impôt sur la fortune, qui permettrait de financer un pass culturel et qui permettrait d'amortir le tarif des billets. Vous voyez, parce que c'était pas normal. Donc premier problème d'ordre économique. Ensuite, le deuxième problème, il est d'ordre organisationnel. Mmh. Pour moi, je trouve que ce n'est absolument pas normal que dans la gestion d'un stade, il y ait une gestion de la préfecture de police. Pour moi, ça devrait être laissé au personnel du stade. C'est pas normal.
Elle est là pour faire régner, évidemment, que les conditions se déroulent dans une bonne ambiance.
Alors,
pourquoi vous dites ça?
Parce que tout simplement.
Mais c'est le rôle de la police aussi.
On assiste à une véritable tutelle administrative de la préfecture de police sur les stades. Je pense qu'il faut recruter des stadiers et du personnel dans les stades. Il faut les former, il faut les payer et faire en sorte qu'ils soient payés et qu'ils soient formés et qu'ils soient en mesure de faire face à ce genre d'événement. C'est pas la préfecture de police de gérer ce genre d'événement. Ensuite, ça pose le problème, le troisième niveau, problématique, c'est le problème politique.
Oui,
moi, ça commence à me gaver que dès qu'il y a un problème dans ce pays aux abords des stades, ça soit récupéré par une bande de politiques qui en fait représentent la classe des plus riches, qui se nourrit de l'émotionnel. Qui se nourrit de l'émotionnel et qui font qui mettent en exergue de véritables dérives politiques.
Ouais.
Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est que tout le monde se renvoie la balle.
Il y a
le problème.
Trois étapes. Oui. Trois étapes. Les flics en France, je les appelle les Playmobil. C'est les Playmobil.
Il a une clochette.
Il y a eu trois étapes. Les supporters ont été nassés. Ils ont été réprimés et ils ont été gazés. Et la particularité des médias en France, le professionnalisme des médias en France, c'est qu'ils sont devenus forts pour faire croire le contraire. C'est-à-dire qu'on a affaire à des supporters qui ont été nassés, réprimés, gazés, et ils font croire que c'est eux et que c'est eux le problème. Non, ça, franchement, ça m'exaspère.
Ben alors, messieurs, nous allons entendre le point de vue de celui de Raïd Chaibi, qui est pas forcément peut-être le même. Je voudrais pas qu'on prenne du retard. Il est 19h31 et c'est parti tout de suite, comme chaque lundi. C'est Maître au Philippe, Henri Honegger chez Ruben et Associés, le Quad Neuf.
Les informés, le Quad Neuf.
Et votre billet d'humeur. Bonjour, mon cher Maître.
Bonjour.
Ça va, vous allez bien?
Oui, très bien, très 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 bien.
Vous voulez parler du décès du journaliste Frédéric Leclerc, Rimov, donc en Ukraine, on vous écoute, on vient de lui rendre hommage il y a quelques minutes à peine sur notre antenne.
Ben oui, évidemment, et tout le monde est choqué et marqué par cette annonce de ce journaliste français qui a été tué en Ukraine. Il aurait visiblement perdu la vue lors d'un bombardement sur un convoi humanitaire d'évacuation de civils auquel il participait dans le cadre de son travail de journaliste. Mmh. C'est une nouvelle qui est absolument terrible pour lui, pour ses proches, pour le journalisme de guerre en général, qui œuvre jour après jour, notamment en Ukraine, dans le cadre de ce conflit, pour révéler les horreurs de cette guerre qui n'épargne personne. Mmh. Et c'est vrai que c'est terrible de se dire que la guerre n'épargne personne. Parce que la guerre, justement, devrait épargner notamment les journalistes. Et il existe des règles très précises, et c'est mon intervention du jour parce que je suis un juriste, de venir vous expliquer qu'il existe des règles du droit qui vient fixer qu'est-ce qu'on a le droit de faire pendant la guerre. Oui. C'est pas à la guerre comme à la guerre. Il y a des règles. Et la règle principale, c'est que dans le cadre d'un conflit armé international, dans le cadre de la guerre, on ne tue pas les civils. Ce qui découle directement de cette règle, c'est qu'on ne tue pas les journalistes qui sont eux-mêmes considérés comme des civils. Et pour ce faire, il existe un troisième principe qui est celui de distinction, c'est-à-dire qu'on doit distinguer entre les objectifs militaires et les civils. Et que donc, quand on bombarde une zone de guerre, on doit s'assurer qu'on ne va pas toucher des civils, qu'on n'est pas en train de viser un convoi humanitaire dans lequel appartiendrait un journaliste. Et visiblement, alors que ces règles sont connues de tous et appliquées par tous dans le droit international, la Russie semble ne faire aucun cas de ses obligations. Et on peut avoir l'impression, vous savez, depuis ces quelques mois, que la Russie fait n'importe quoi, qu'il n'y a pas de système répressif, qu'ils ne seront pas punis pour ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des règles qui permettront de punir à la fois ceux qui commettent ces crimes de guerre et ceux qui ordonnent ces crimes de guerre. Je vous avais parlé la dernière fois de la Cour pénale internationale, qui est une organisation internationale qui a été faite pour justement créer un tribunal qui permet de condamner ces personnes-là. C'est un peu compliqué pour l'instant d'activer la Cour pénale internationale parce que la Russie n'est pas partie. Mais il y a d'autres moyens. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques semaines, il y a un soldat russe qui a été condamné en Ukraine pour un crime de guerre. Parce qu'on peut intégrer, les pays ont intégré dans leur droit interne la possibilité de poursuivre sur leur territoire, dans leurs tribunaux, les criminels de guerre. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que peut-être Poutine lui-même, un jour, sera jugé et peut-être même condamné en France par un tribunal français. Parce qu'il existe une autre règle qui fait que quand un Français est victime notamment d'un crime de guerre à l'étranger, eh bien la France s'octroie la compétence de mener une enquête, de juger et de condamner les auteurs de ces crimes. Ça veut dire que le pilote éventuel de cet avion qui a jeté cette bombe, qui n'a pas fait attention aux civils, qui n'a pas fait attention aux journalistes, qui n'a pas appliqué le principe de distinction, pourra être poursuivi pour le crime de guerre qui en découle. Et celui qui a donné les ordres, ou celui qui n'a pas sanctionné le fait qu'un crime de guerre a été commis, pourra lui-même être poursuivi et être condamné. Ça veut dire que d'ici très peu de temps, la France peut engager une enquête dans laquelle elle décide de poursuivre le pilote et le dirigeant Poutine, engager avec ça un mandat d'arrêt international. Et que si jamais M. Poutine vient, non seulement en France, mais dans tous les pays d'Europe et tous les pays qui travaillent avec la France sur les mandats d'arrêt internationaux, il pourra se retrouver devant un tribunal. Autant vous dire que, pour l'instant, il peut commettre ses crimes de guerre, il peut faire ce qu'il veut, mais que M. Poutine, pour les prochaines années, va probablement devoir faire une croix sur la possibilité de venir passer ses vacances à la Côte d'Azur en France.
Eh bien, merci pour ce billet d'humeur, Maître Philippe-Henri Honegger. C'est Ruben et Associé. À lundi prochain, sans faute.
À lundi prochain, je serai là.
Merci, mon cher maître. 19h35, on marque la dernière pause pub. Et on se retrouve tout de suite après avec le point de vue, celui de Riyad Chaibi, justement concernant le chaos, le Stade de France. Chacun se renvoie la balle, la polémique enfle. Bref, on revient sur ce sujet. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informer avec Adil Farka.
19h43, on revient sur l'incident, le chaos au Stade de France, qui est l'aboutissement, évidemment, certains disent de politique, l'aboutissement des politiques françaises de gestion de supporters. Ça, c'est certaines déclarations. On reviendra aussi, vous savez, sur cet incident, sur ces scènes chaotiques, cette organisation complètement chaotique. Riyad Chaibi, on vous a pas entendu, je voudrais évidemment réagir à la fois sur ça, mais sur aussi les propos de Jimmy Dalidou, et je voudrais aussi entendre celui, évidemment, qui interviendra chez Bilal Lenman, qu'on connaît, que je ne présente même plus, Boula. Bonsoir Boula.
Bonsoir.
Riyad Chaibi.
Plusieurs observations. La première, c'est qu'effectivement, les images sont absolument chaotiques et désolantes. On peut pas se féliciter de voir des jets de gaz lacrymogène sur des familles, sur des femmes, sur des enfants, sur des hommes. Après, sur immanquablement, il y a
une fraude massive de faux billets aussi. Attention.
J'y viens justement, et ça me permet de revenir sur ce que disait Jimmy. En fait, alors en travaillant le sujet, c'est ce que j'ai découvert, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs responsabilités dans l'organisation. Vous avez la responsabilité du consortium du Stade de France autour du stade, qui revient aux agents de la sécurité et puis aux stewards. Vous avez sur la voie publique, ça c'est la responsabilité de la préfecture de police et donc des agents de police et des forces de l'ordre qui étaient là. Ensuite, il y a eu une série de faits qui a malheureusement entraîné tout ce dysfonctionnement. La grève effectivement du RERB ce samedi qui a orienté la plupart des supporters vers le RERD. Mmh. Et donc, il y a eu, comment dirais-je, tout ce flux de supporters qui sont arrivés dans une seule et même gare. Donc, ça a influé sur le fléchage, comment dirais-je, aux abords du stade. C'est pour ça que je parle de nécessité d'éclaircir le niveau de responsabilité à tous les niveaux. Est-ce qu'on aurait pu anticiper ça?
À qui la faute?
C'est difficile de dire c'est la faute d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Je me garderais bien de jeter l'opprobre sur une partie.
Les stadiers,
je pense que
les jeunes, les supporters.
Il y a un éclaircissement qui doit être fait à tous les niveaux. Il doit y avoir, je crois d'ailleurs, une commission, une audition au Sénat mercredi où ils vont interroger le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports. On en saura peut-être un peu plus. Mais je pense qu'à tous les niveaux, il y a eu un dysfonctionnement sur les pré-filtrages, sur évidemment au niveau également de l'UEFA. Faut pas oublier, parce que pourquoi l'UEFA a refusé de faire les billets électroniques et a favorisé les billets papier? Est-ce que ça a influé? Effectivement. Par contre, là où je m'élève, c'est sur l'accusation facile des jeunes des quartiers qui auraient contribué, etc. Je pense que l'accusation est un peu trop facile. Il faut pas détourner le regard. Et je pense que, c'est une parenthèse que j'ouvre, dans une finale comme ça, que la France a récupérée, parce qu'à la base, elle devait avoir lieu
en Russie, la
finale, exact. Que la France a récupérée, je le rappelle. Je pense qu'il aurait été, dans ce contexte où effectivement Nasser Kétan le rappelait, où les prix sont exorbitants, peut-être accorder quand même des places à ces jeunes qui habitent parfois à 50, 100 ou 250 mètres du stade.
Même pas.
Et qui n'ont même pas la possibilité de pouvoir regarder un match de foot.
Absolument.
Donc il y a des dysfonctionnements pour moi à tous les niveaux qui doivent être éclaircis, que ce soit au niveau du Stade de France, au niveau du ministère de l'Intérieur,
et au niveau de l'UEFA.
Par contre, et je rejoins ce que disait Carl Olivier, il peut y avoir des trous sur la raquette, mais là où on peut se féliciter, c'est que fort heureusement, on n'a pas eu des drames comme Hillsborough en 89 où il y a eu des morts. Heureusement qu'on n'a pas eu
deux choses. Je trouve que tu es un peu fragile quand même, Ryan, par rapport au rôle des ce que j'ai appelé les Playmobil de la République, c'est-à-dire la police nationale, parce que c'est quand même. Moi, ça me satisfait pas quand on a des médias qui te disent ouais, on va chercher le niveau des responsabilités. Il faut que ça se fasse, hein, au niveau de la jurisprudence, etc. Mais il y a d'abord une responsabilité qui est clairement affirmée, c'est qu'on est dans un pays dans lequel il y a une habitude de répression. Il y a une répression excessive à la française qui s'est installée. À chaque fois qu'il y a à chaque fois que les gens se réunissent quelque part, que ce soit au bord du canal Saint-Martin pour faire un pique-nique ou discuter, ou au bord d'un stade, à chaque fois qu'il y a réunion, que les gens se réunissent, vous avez des Playmobil qui débarquent. C'est-à-dire la préfecture de police vous envoie des policiers, ils débarquent avec leur matraque, ils tapent tout le monde. Moi, ce qui s'est passé hier, c'est que
tu
expliqueras ça aux 300 millions de personnes qui ont assisté aux matraques qui fusaient, qui tombaient sur les jeunes des quartiers populaires, justement, qui de plus ne peuvent même pas se payer un billet parce qu'ils en ont pas les moyens, et en plus ils se reçoivent des coups de matraque. Et après on va aller s'étonner qu'il y a des émeutes dans les quartiers populaires, et pourquoi les mecs ils sont fâchés. Tu vois,
justement, messieurs, alors je voudrais entendre Boula, parce que pendant la pause pub, justement, on avait un échange avec Boula, qui lui intervient régulièrement chez Bilal Nedman, qu'on va retrouver dans une poignée de minutes dans Time Sport. Boula, alors vous dites quoi effectivement? Que s'est-il passé? Et vous y étiez au Stade de France.
Ah, déjà, le premier responsable, c'est le ministre de l'Intérieur.
Oui.
Premier responsable.
Pourquoi?
Pour moi, parce que c'est la sécurité. Mmh. Je comprends pas comment que ça se fait qu'il y a eu un laisser-aller. Et je pense que dans la gestion de ce match-là, l'UEFA, ils ont leurs propres gars qui viennent un peu de l'extérieur. On a des grosses boîtes de sécurité en France, dont l'Île-de-France, dont S3G, qui est une grande, grande, grande boîte de sécurité. Est-ce qu'on les, on a fait appel à eux pour embaucher plus de gens pour cette gestion de gamins qui sont autour de l'Île-de-France. Mmh. Après, faut pas se leurrer. Il y a un business dans ce match-là où il y a eu 25 000 pour Liverpool, 25 000
pour le Real.
Il y a eu 25 000 madrilènes, il y a eu 7 000 au public et le reste c'était des loges. Je sais pas moi, dites-moi. Moi ce que je voudrais savoir, c'est juste le nombre des gamins au niveau de la FIFA. Je pense qu'ils ont des assos, ils ont un côté social la FIFA. Je voudrais savoir combien de billets il y a eu à la disposition de l'Île-de-France pour les gamins payés par Nike ou payés par des sociétés. Voilà, payés par des sociétés, payés par Nike.
Adidas,
après etc. Tous ces gamins là, un match comme ça. C'est le football, c'est un football populaire, c'est le football de la rue, c'est le football des quartiers. Après, c'est facile, comme Thierry Henry qui a grandi dans un quartier qui dit « Ouais, c'est un climat d'insécurité ». Déjà, lui, il dit qu'il y a un climat d'insécurité. Déjà, quand il le dit, je pense que les instances de la police ou n'importe qui, le ministre de l'Intérieur, auraient pu... est-ce qu'il faut me dire comment que ça se fait que... surtout au niveau des filtrages. Quand je vais au Parc des Princes, moi, il y a trois barrages. Ça veut dire, pour atterrir au stade, il y a un barrage qui te bloque. Si t'as pas ton billet, tu passes pas. Voilà. Par contre, au niveau des faux billets, le premier
barrage... Avant le barrage déjà du billet, il y a le barrage déjà où on te fouille.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Non, mais il y a déjà ça. On te fouille, il y a la fameuse tente, et ensuite, après, il y a le barrage billet.
Et avant
d'arriver au stade. Hein.
Monsieur, quand il parle du consortium, mais il y a un truc qu'il faut savoir... C'est que le consortium, ils ont rien à voir. Ils n'avaient pas d'employés. Ce jour-là, ils n'avaient pas d'employés. Moi, tout ce que je regarde, c'est que tous les gens du Stade de France, qui travaillent au Stade de France, ils ont dû partir laisser la gestion de l'UFA. Après, faut vraiment savoir un peu le rouage Jimmy. De ce côté.
Oui, je ne reviendrai pas sur la tutelle préfecture de police et stadier, etc. Effectivement, mais pour revenir, moi, ce qui est gênant aussi dans cette affaire, c'est qu'on a affaire à on a des jeunes. Je suis d'accord avec toi sur le fait que les jeunes des quartiers populaires n'ont pas accès au stade, alors que ce qui fait les plus grandes stars du football, c'est justement des jeunes des quartiers populaires. C'est quand même assez paradoxal. Alors moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a des clubs de football qui brassent des milliards. Ils sont capables de débloquer plusieurs millions. Alors, encore une fois, moi je suis moi-même très sportif, j'ai beaucoup d'admiration pour les sportifs, quel que soit le sport. Mais les clubs de football, l'UEFA, etc., la FIFA, ils sont capables de débloquer plusieurs millions en primes à un seul joueur. Je parle même pas de l'équipe, je parle juste à un seul gars. Il va toucher plusieurs millions pour être transféré et il serait pas capable de financer en tout cas un pass culturel qui permettrait en tout cas d'amortir et qui permettrait aux jeunes des quartiers populaires d'accéder à des prix abordables et qui pourrait leur permettre d'accéder au stade. C'est quand même assez incroyable.
C'est pas des prix abordables. Moi quand je vois Nike, quand il y a l'équipe de France, quand le stade il est pas plein, ils envoient 8 ou 10 000 places offertes par Nike sur les gamins de l'Île-de-France. Mais je sais pas, il y a une stratégie de travail quand même. Tu penses pas que dans l'Île-de-France t'as des gamins qui vivent le football de la rue?
Bah bien sûr.
Après, quand l'autre Pascal Pro qui se permet de dire ouais Benzema ça.
Il y a pas Benzema sur le terrain, il y a pas les autres.
Mais qu'est-ce qui mélange?
Bah vous allez en parler.
Tu comprends pas. Merci messieurs, merci. Que ces gars-là c'est des fachos qui font leur boulot.
Merci messieurs, merci à Raed Chaibi.
Ils sont là pour ça.
Tout va vite. Effectivement, c'était une édition un peu spéciale. Merci à Jimmy Dalidou. Boula, on vous retrouve avec Time Sport, Milan Edman. Je vous dis, en photo avec qui, Benzema, ce soir-là? Qui ça d'autre?
Caca.
Et qui d'autre? Ah, la classe.
C'est le président de la
FIFA. Boula, c'est la classe, Boula. Boula, c'est la classe.
Non, pas du tout.
Boula, juste passer un petit bonjour, s'il vous plaît, Adil.
Parce que c'est vous.
Parce que c'est moi. Un petit bonjour à mon ami Carole Alves-Picard, ma collègue, la vraie, l'unique et l'originale.
Oh, lol.
Ouais, elle doit être charmante.
Et juste un petit
détail. Quel déclarage. Oui,
et juste un petit détail pour Carl Olive, que dommage qu'il a soutenu Macron et qu'il n'ait pas été nommé ministre des villes.
C'est pas fini. Mais monsieur Boula, c'est pas fini. Il y a encore le gouvernement, on va être encore nommé. Non, mais attendez, il va y avoir une. Ça s'appelle la seconde vague. Après législative, vous allez voir une série de nominations, évidemment, dans la nouvelle composition, le nouveau visage du gouvernement.
Une série de nouveaux corrompus.
Oh, Oh, lui, là, il est clochette.
Une série de nouveaux
ça va pas, lui, il peut pas s'empêcher quand même. Faut qu'il arrête, notre ami. Allez, Yanis, c'était la réalisation. À demain avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.